10 à Cherbourg.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
Nous sommes le mardi 23 avril 2024, voici le journal de 6h30.
Avec à la une ce matin une réforme de la sécurité civile discutée au niveau national pour s'adapter à des problèmes locaux qui changent. La démission du chef du renseignement militaire israélien ouvre la voie à une enquête sur le 7 octobre. Et puis le passage à l'électrique en Europe risque de favoriser les voitures étrangères et de provoquer la colère.
Avez-vous bien dormi? Si la réponse est non, notre invité, juste après ce journal, peut peut-être vous aider. Le président de la Maison de la Literie est avec nous dans Comment j'ai réussi. 7h moins le quart. Au travail, avec Quentin Périnel, on parle des conjoints de militaires face à la recherche d'emploi. Charles Bonner, le ministère de l'Intérieur veut repenser le rôle de la sécurité civile.
Des discussions sous le nom du Beauvau de la sécurité civile. Ces concertations visent d'abord à dresser un constat. Le rôle du secteur évolue car les risques évoluent. Changement climatique, crise sanitaire, mais aussi désertification médicale. Lucie Dupressoir, les sapeurs-pompiers y sont de plus en plus confrontés.
L'Ardèche, un des plus gros déserts médicaux de France. Pour les pompiers, cela se traduit par une hausse des appels et des secours à personne. Plus 19% en ce début d'année par rapport à 2023. Le colonel Laurent Courtial, directeur adjoint du service d'incendie et de secours dans le département.
Malheureusement, ce ne sont pas que des malaises cardiaques, des accidents de circulation ou des choses comme ça. Ce sont souvent de l'assistance à personne, des gens qui n'ont pas trouvé une réponse médicale au plus près de chez eux.
Et il faut parfois parcourir tout le département pour les prendre en charge.
J'enlève une ambulance de proximité qui assure une réponse de proximité pour l'urgence et je la perds pendant plusieurs heures pour quelque chose qui n'est pas forcément urgent. En tout cas, on dégrade la réponse sur certains secteurs du fait d'avoir des évacuations de longue distance.
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers appelle donc à redéfinir leur mission. Son porte-parole, Éric Brocardi.
Il faut recentrer ces missions sur des urgences vitales, sur des missions où les sapeurs-pompiers sont très simplement utile à la population. Massage cardiaque, sauvetage de personnes dans des bâtiments qui sont embrasés. On revient à nos fondamentaux.
En moyenne, le secours d'urgence aux personnes représente 85% de l'activité des pompiers.
Lucie Dupressoir, les nouvelles règles de l'indemnisation à l'assurance chômage entreront en vigueur dès cet été. Le gouvernement reprend la main après l'échec des négociations entre patronat et syndicats et veut durcir les règles, notamment sur les conditions d'éligibilité.
Et on y revient dans 10 minutes dans le journal de l'économie.
Là aussi, ce sont des négociations qui ont échoué sur la réorganisation du contrôle aérien. Les discussions entre la Direction générale de l'aviation civile et les syndicats qui prévoient de leur côté une mobilisation record ce jeudi avec de nombreuses annulations attendues dans les aéroports français. La 13 ne rouvrira pas la circulation avant le 1er mai au mieux entre Paris et Vaucresson. Des fissurations sont apparues sur la route.
Au Royaume-Uni, le Parlement adopte le projet d'expulsion de migrants au Rwanda.
Les deux chambres se renvoyaient systématiquement le texte amendé pour éviter d'avoir à trancher sur ce projet de loi critiqué par l'opposition, des ONG et même le respecté chef de l'église anglicane. La loi prévoit d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda le temps d'étudier leur dossier. La mesure phare de lutte contre l'immigration clandestine du gouvernement conservateur de Rishi Sunak. En Israël, le chef du renseignement militaire démissionne. Il évoque sa responsabilité dans le 7 octobre, la mort de 1170 personnes, en majorité des civils, une attaque du Hamas. L'armée ne l'avait ni prévu ni empêché. Marc Tédé, en revanche, le général Aaron Aliva n'entend pas jouer les boucs émissaires.
10 jours après l'attaque du Hamas en Israël, il avait été l'un des premiers à reconnaître sa responsabilité en tant que chef du renseignement militaire. Mais en pleine riposte, la démission d'Aaron Aliva avait été refusée. Elle a finalement été acceptée hier par son chef d'état-major dans une démarche coordonnée. Sa lettre de démission doit donc aussi être vue comme un geste collectif, d'autant qu'il appelle à la création d'une commission d'enquête minutieuse et complète sur les causes de cet échec israélien, souligne Pierre Razou, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques.
Le message du général à Aaron Aliva, c'est maintenant chacun doit examiner sa propre part de responsabilité, faire son examen de conscience pour dire là où il a fauté. Et pour cela, rien de mieux qu'une commission d'enquête générale, mandatée notamment par la Knesset, pour examiner les responsabilités, certes, des militaires, des services de renseignement, mais aussi et surtout de la classe politique et notamment du Premier ministre et de ses alliés au gouvernement.
L'acceptation de cette démission semble également indiquer une baisse prochaine d'intensité des activités militaires de Tsahal dans la région. après sans doute une dernière offensive à Gaza.
L'attaque du 7 octobre, organisée selon Israël avec le soutien de 12 employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine, accusations qui ont conduit à la création d'une mission d'évaluation présidée par l'ancienne ministre française Catherine Colonna. Le rapport estime que les accusations israéliennes ne sont pas prouvées, mais que l'agence de l'ONU a des problèmes de neutralité tout en restant indispensable sur le terrain.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se penche aujourd'hui sur les violences sexuelles dans les conflits.
C'est souvent une arme de guerre qui vise la plupart du temps les femmes et les filles, mais aussi les hommes. Des violences qui augmentent avec la multiplication des guerres et des attaques, Julie Droit.
Au Soudan, en Afghanistan ou encore en Birmanie, dans chaque pays touché par un conflit, des faits de violences sexuelles sont rapportés en nombre. Et depuis peu, les groupes criminels et terroristes y ont aussi recours, comme le détaille Céline Bardet de l'ONG We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre.
On voit ce qui se passe en Haïti en ce moment. Les gangs utilisent la violence sexuelle comme outil de terreur et notamment kidnappent aussi les filles des familles pour créer un levier de chantage.
Les violences sexuelles sont aujourd'hui utilisé au même titre que le couteau, la grenade ou la kalachnikov, explique l'ONG. Il s'agit bien d'une stratégie militaire destinée à instiller la peur, qui sert aussi des intérêts propres à chaque conflit.
La Russie a eu une politique d'utilisation des violences sexuelles. On vise les femmes ukrainiennes pour humilier cette population et détruire en fait les Ukrainiens. Et dans les actions qui ont été commises le 7 octobre en Israël, il y a une volonté de féminicide aussi derrière, c'est-à-dire de détruire la femme et de mutiler le corps des femmes.
Des crimes difficiles à prouver, non prioritaires dans les enquêtes, les auteurs le savent et profitent de cette impunité. Pour la juriste Céline Bardet, il est primordial de documenter ces exactions afin d'aboutir à une condamnation.
Les explications de Julie Droit.
Le passage au tout électrique dans l'automobile est difficilement faisable selon la Cour des comptes européenne.
La décision d'interdire les modèles thermiques en 2035 reste toujours contestée sur le principe, mais défendue, y compris désormais par les constructeurs, notamment Carlos Tavares de Stellantis, qui ne veut pas voir les règles changer encore. Bonjour Chloé Sénard.
Bonjour.
Les règles sont strictes, trop difficiles à mettre en place si l'on veut tout concilier.
Entre l'acceptation sociale et la souveraineté, il faut choisir. La voiture électrique est encore trop chère pour la majorité de la population et surtout peu pratique. Il manque des bornes de recharge sur le territoire européen. Les doutes sont aussi au niveau de l'industrie. Moins de 10% de la capacité de production mondiale est basée en Europe. La Chine, elle, est à 76% des capacités mondiales. Une dépendance que l'on retrouve dans l'importation des matériaux nécessaires à la fabrication des batteries. Les émissions de CO2 des voitures à moteur thermique sont aussi pointées du doigt par la Cour des comptes européenne. Elles sont encore trop élevées, les mêmes quantités qu'il y a 12 ans. Enfin, se pose la question des carburants alternatifs comme l'hydrogène ou le biocarburant. Pas sûr que ça soit viable à long terme, selon l'instance, qui déplore l'absence d'une feuille de route pour résoudre les problématiques de la quantité disponible, du coût et du respect de l'environnement de ces alternatives.
Chloé Sénard, et la Commission européenne doit réévaluer la situation dans 2 ans et décider ou non d'adapter le calendrier.
Merci Charles Bonner, c'est votre journal de 6h30. L'invraisemblable accord signé à la SNCF qui revient quasiment à annuler pour les cheminots la réforme des retraites, c'est la une du journal de l'économie dans 10 minutes. D'abord un nouvel invité, on va parler literie, c'est tellement important. Bon réveil. A tout de suite, Radio Classique.